Bonjour. Je commence ma deuxième leçon sur les juristes comme écrivains, en posant toujours la question, y a-t-il eu une littérature juridique? Aujourd'hui, c'est la journée du juriste-philosophe. La relation entre la jurisprudence et la philosophie rassemble assez rapport entre deux personnages qui se détestent, tout en ayant une sorte d'attraction l'un envers l'autre. Et c'est davantage le droit qui se sent redevable à la philosophie dans cette relation, avec une amertume qui n'attend que peu de lignes du digeste pour éclater. Nous cherchons à former d'hommes honnêtes par la crainte des peines, mais aussi par l'espoir de la récompense. Donc, nous pratiquons, si je ne me trompe pas, la philosophie, non extérieure, mais vraie, agissante. Il s'agit de la célèbre ouverture des instituts d'Ulpien, qui sert aussi d'ouverture pour le digeste. C'est une idée qui n'a pas attendu Ulpien pour être conçue. Elle circulait depuis bien des siècles. Ce n'est qu'une version de l'idéal de la vie active que nous retrouvons énoncée de manière semblable, par exemple, au début des Républicas de Cicéron. Il écrit: La vertu n'est pas comme un art qu'il suffise de posséder sans le mettre en pratique. Son activité la plus glorieuse, c'est le gouvernement de l'État et l'application, non pas en parole, mais en fait, des choses mêmes que ces jeunes-là débitent de leur école. Car rien n'est dit par les philosophes, du moins de juste et d'honnête, que les premiers législateurs des États n'aient découvert, n'aient proclamé. Les citoyens qui, par l'autorité et les menaces de la loi, obligent tout un peuple aux mêmes choses que les conseils de la philosophie peuvent inspirer à quelque homme, ce citoyen est donc préférable même aux démonstrateurs les plus éloquents des vérités que seul il met en action. C'est la même pensée. Dans le monde romain, la question de la priorité entre droit et philosophie s'étale sur un arrière-plan important. Le droit à Rome paraît bien être l'ouvrage le plus caractéristique de Rome quand on le compare aux autres sociétés indo-européennes. Une technique intellectuelle de bon niveau, avide de précision, et qui s'est développée bien avant le rencontre plus profond de la culture romaine avec la philosophie grecque et hellénistique. Ça n'empêche pas que la philosophie faisait partie, ou était devenue, partie des outils dont les juristes ont su s'emparer. Il suffit de rappeler que Callistrate, un juriste, reproduit du IIIe siècle après Jésus-Christ, reproduit un large passage de la République de Platon, qu'il appelle le plus grand sage chez les Grecs, pour démontrer que les commerçants sont très utiles à la cité. Julien fait recours à Aristote en tant que philosophe de la nature. Son successeur Théophraste est mentionné deux fois par Pomponius et Paul. À propos du principe selon lequel le législateur doit tenir en compte ce qui arrive le plus souvent, non pas les rares exceptions. Marcien, enfin, cite les traités sur la loi de Chrysippe, les plus fameux philosophes parmi les stoïciens. Bref, les deux disciplines étaient convergentes quant à leur fonction et avec aussi des points de contact structurels. Quelle est donc la spécificité, s'il y a-t-il une, du discours juridique? Je dirais, en citant une conclusion de Jan Thomas, que la science juridique s'incorpore de motifs dont le sens est radicalement changé. On ne prête pas assez attention à ce travail par lequel, en rapportant à leur corpus des lieux communs philosophiques, les juristes produisent une pensée autonome à partir de textes d'empreintes. C'est mon intention aujourd'hui de vous proposer un exemple de ce procès d'élaboration que Jan Thomas a très bien décrit. Et comme on l'a vu dans la première conférence, l'organisation par chapitre empêche les textes des juristes de s'affirmer comme des œuvres unitaires, ainsi que l'unité est communément comprise, l'unité d'une œuvre littéraire. Les éléments paratextuels nous guident vers les lieux de notre intérêt, et aujourd'hui, le lieu de notre intérêt est une page d'un juriste qui s'appelle Alphénus, et le problème sous-jacent, c'est un problème d'identité, de l'identité. Alors, selon l'étymologie, et je dois, pas seulement, ce n'est pas un devoir, mais c'est un plaisir, remercier encore M. Scheid et vous pour me donner l'opportunité de vous soumettre mon parcours de lecture. Alors, selon l'étymologie et comme signification première, identité est la condition d'être idem, c'est-à-dire d'être le même. Le mot identité désigne donc un rapport d'égalité absolue, de correspondance parfaite entre les deux éléments pris en considération. Du point de vue morphologique, idem vient de is avec le suffixe d'insistance m. L'identité, idem esse, est donc un schéma de relation. Appliqué à des corps, les rapports peuvent s'instaurer entre deux corps qui, à un moment donné, occupent deux lieux différents. C'est la première facette du rapport de l'identité. Appliqué à deux corps qui, à un moment donné, occupent deux lieux différents. Et pourtant, ces rapports d'identité peuvent aussi s'appliquer à un seul corps, considéré à des moments différents. Il est évident que dans le premier cas, celui des deux corps qui sont rapprochés entre eux à un moment donné, on parlera d'identité dans un sens différent du second, identité d'un seul objet à des moments différents. Ce genre de recherche était bien connu aux juristes romains qui l'affrontaient afin de résoudre plusieurs questions juridiques. Le texte dont je m'occupe a été écrit par Alphénus Varius, un juriste qui fut consul en 39 avant Jésus-Christ, donc qui était contemporain à l'opération faite par Cicéron de transplanter la philosophie grecque dans la culture et la langue latine. À vrai dire, plusieurs savants attribuent le texte au maître d'Alphénus, Servius Sulpicius Rufus, l'ami de Cicéron, qui partagea son voyage d'instruction en Grèce et qui fut consul en 51 avant Jésus-Christ. Son élève Alphénus se serait borné à recueillir ses réponses. En défaut de source, la question ne peut pas être tranchée. Donc je préfère me ranger du côté du texte tel que nous le lisons aujourd'hui, c'est-à-dire avec l'attribution explicite à Alphénus. Le texte aborde la question de l'identité à propos d'un rapport processuel. Je traduis la première partie du texte parce que je vais le commenter pendant le cours de la leçon. On a proposé cette espèce. Des juges avaient été nommés pour trancher en litige. Quelques-uns d'entre eux, après avoir entendu discuter la cause, on était affranchis du devoir de juger et d'autres ont été mis à leur place. Il était question de savoir si ce changement de certains juges avait rendu différent le jugement ou si c'était encore la même chose. J'ai répondu que le jugement restait le même, pas seulement quand il aurait eu un ou deux juges d'échanger, mais même quand ils l'auraient été tous. La définition exacte de l'enjeu pose des difficultés. Pourtant, ces difficultés n'opposent heureusement aucun obstacle à la perspective de notre lecture. Il suffit de rappeler qu'à Rome, la majeure partie des litiges entre particuliers était confiée à la décision d'un juge unique. Ici, par contre, il s'agit d'un collège de juges. Les deux types plus importants de juges en composition collégiale étaient les recuperatores et les centumviri, auxquels on dévouait les litiges de plus grande valeur économique et sociale, comme ceux qui portaient sur l'héritage ou lorsqu'on mettait en cause l'état de liberté ou de servitude d'un sujet. Encore, le jugement collégial était censé préférable lorsqu'il s'agissait de délits qui impliquait des évaluations qui touchaient la sphère sociale et personnelle des parties, comme à propos du délit d'injure. le texte d'Alphénus ne nous dit pas de quel type étaient les juges concernés. On ne sait pas s'il s'agissait des centumviri ou des recuperatores, ni quelle était la matière du litige. Ce laconisme implique que, aux yeux du juriste, des détails de ce genre n'avaient aucune influence sur la question qu'il abordait et que la solution qu'il en donnait avait une portée générale valable pour tous, pour tous les cas où l'un des juges du collège serait substitué. La question est posée en termes généraux. Du point de vue littéraire, le texte est joliment structuré en trois parties. En premier lieu, vient le cas d'espèce, nous l'avons lu. Après, la question est posée. Enfin, le juriste énonce son responsum. Nous avons lu cette partie. Et à la suite de sa réponse, il donne une longue motivation. On peut vraiment voir le client qui s'approche au juriste, lui raconte ce qui s'est passé, puis formule les problèmes, et enfin, il écoute la réponse du juriste. La structure, donc, imite une consultation orale, quoique, très probablement, nous avons ici affaire avec un compte rendu profondément réélaboré. L'importance du texte, à nos yeux, réside dans la longue motivation, qui n'est pas si fréquent au niveau des textes qui nous ont été transmis par le digeste. Pourtant, on ne peut pas considérer le texte comme une discussion purement théorique. Par exemple, déterminer si la substitution d'un juge du collège conserve ou modifie l'identité du procès est décisive pour savoir si les garanties données par les défendeurs en cas de condamnation maintiennent ou pas leur validité et, les cas échéants, si elles doivent être renouvelées. La réponse à la question est très claire. Alphénus répond que les jugements étaient les mêmes, non seulement qu'il y aurait eu un ou deux juges déchangés, mais même quand il y aurait été tous. Mais comment parvient-il à cette conclusion? Je pense que lorsque nous sommes mis devant une question de ce genre, la première sensation est de désorientation, de manque de points de repère. Comment peut-on traiter les cas? Comment le réduire à un terrain familier, à des schèmes et à des expériences qui nous appartiennent et qui puissent nous mener à une décision raisonnable? C'est lorsque le lecteur tombe dans cet état d'incertitude décisionnelle qu'il comprend la substance de la jurisprudence romaine, c'est-à-dire son statut de technique qui s'appuie sur le raisonnement. C'est le moment où la pensée des juristes décèle sa structure complexe. Pour argumenter sa réponse, Alphénus recourt à une série d'exemples qui portent sur la substitution d'une partie qui laisse identique le tout auquel elle participe. Donc, je continue à traduire. Et j'ai observé que ce n'était pas là le seul cas où on voyait une chose rester la même, quoique toutes les parties en fussent changées, mais qu'on en pouvait rapporter plusieurs exemples. En effet, une légion est toujours la même, quoique plusieurs de ceux qui la composaient soient morts, et qu'on leur ait substitué d'autres. Le peuple est censé être le même aujourd'hui qu'il était il y a 100 ans, quoique il n'y ait personne de ceux qui vivaient alors qui existe encore en ce moment. Un vaisseau est censé être toujours le même, quoique il ait été radoubé tant de fois qu'il n'y a pas une seule des anciennes planches. Pour arriver à ces exemples, Alphénus accomplit un premier pas argumentatif implicite qu'on ne voit pas, mais qui est le pas décisif, qui lui permet d'encadrer les cas dans une série de cas semblables et de les traiter. C'est ici qu'il fait recours à la philosophie et en profite. Le premier pas est celui de considérer les juges comme une chose collective, un corpus ex distantibus, pour utiliser la terminologie d'un autre juriste successif, Pomponius. Le mélange, rerum mixtura facta, le mélange de deux choses ensemble, interrompt-il l'usucapion commencée de chacune des choses en particulier? C'est la question. Il faut distinguer, dit Pomponius, trois espèces de corps. Le premier a son fondement dans un seul esprit, les Grecs l'appellent énoménon, chose unitaire, comme un homme, un morceau de bois, une pierre et autres choses semblables. Les autres ne sont réunis ensemble que par cohérence. Les Grecs marquent cette cohérence par un mot qui signifie connexité, synémenon, comme un édifice, un vaisseau, une armoire. Enfin, les autres forment un composé de plusieurs parties distinctes, comme sont plusieurs corps non liés ensemble, mais compris sous un même nom, comme un peuple, une légion, un troupeau. Cette tripartition, qui remonte à Chrysippe, définit le sens de corps dans lequel un objet physique ordinaire, par exemple une partie distincte du monde visible, est un corps. C'était presque un lieu commun, philosophique, de diviser les choses en trois catégories. Un texte de Plutarque, écrit peu d'années avant celui de Pomponius, nous en montre une jolie application au rapport entre homme et femme. Entre les corps, dit les philosophes, les uns se composent de parties distinctes, comme une flotte, une armée, les autres de parties jointes, entre elles, comme une maison, un navire, d'autres enfin se confondent en une sorte d'unité qui les fait exister ensemble. Comme est le corps de chaque animal, il en est à peu près des mêmes des époux. Le mariage qui se fond par amour représente l'unité primitive et inséparable. Ceux qui se font en vue de la dot ou des enfants représentent les parties qui ont été jointes ensemble. Enfin, les mariages où l'on couche seulement sous le même toit, mariage desquels on pourrait dire que les époux habitent mais ne vivent pas ensemble, ces mariages, dis-je, figurent les corps composés de parties distinctes. Or, comme les physiciens disent que les liquides se mélangent entre eux par toutes leurs molécules, il faut que parallèlement deux époux se confondent l'un avec l'autre et par leur corps, et par leur richesse, et par leurs amis, et par leurs parents. Donc, c'est la page de Plutarque qui essaie de transformer ce lieu commun philosophique dans un petit récit de divers types de mariages. C'est une sorte de déclaration d'amour sous espèce philosophique. Le fait que nous rencontrons cette distinction auprès d'un écrivain platonicien comme Plutarque montre qu'elle n'était pas confinée au patrimoine du stoïcisme, au sein duquel elle s'était dégagée, mais qu'elle était partagée par toutes les écoles. Maintenant, retournons-nous au texte d'Alphénus. Les deux premiers exemples qu'il aborde, la légion et le peuple, sont évidemment choisis par Alphénus à cause de leur proximité au cas en jeu, car il s'agit justement de corpora ex distantibus et composés, eux d'hommes comme les juges. Donc, le peuple, la légion et les juges sont un type de corps qui appartiennent à la catégorie des corps composés, de parties qui ne sont pas attachées l'une à l'autre. Le remplacement de certains soldats, voire même de tous les membres du peuple, observe Alphénus, laisse subsister la même légion et le même peuple. On remarquera que dans le cas du peuple, on utilise explicitement la catégorie du temps comme un axe sur lequel sont tenus distincts les deux éléments de comparaison, c'est-à-dire les gens formant le peuple aujourd'hui et les gens qui les formaient il y a 100 ans. Alphénus ne donne pas une motivation explicite qui expliquerait pourquoi il faut les considérer le même peuple ou la même légion. On peut penser qu'il se traite d'une sorte d'acquis commun, à partir du fait que légion et peuple gardent leur nom malgré les changements de personnes, legio gemina, populus romanus. Alphénus, afin de confirmer ce premier rapprochement, se tourne au cas d'une chose inanimée composée de parties cohérentes, la deuxième catégorie. Un bateau, c'est la deuxième catégorie de choses distinctes par les stoïciens. Un bateau, dit-il, est censé être toujours le même, quoiqu'il ait été radoubé tant de fois qu'il n'y a pas une seule des anciennes planches. La réponse affirmative que donne Alphénus était la plus répandue dans la philosophie grecque, quoique c'était un problème discuté. On peut y voir un fondement aristotélique. Le bateau maintient son identité grâce au maintien de sa forme perceptible, externe. C'est la direction à laquelle nous oriente la référence finale du texte à la species, qui évoque la morphée aristotélicienne. Mais l'exemple clé conclusif rapporté par Alphénus sous la forme d'une reductio ad absurdum, c'est l'exemple de l'homme. Comme on le voit, donc, le juriste prend son départ d'une sorte de chose collective, les centum viri, les juges. D'après, s'en vient à deux exemples typiques de choses collectives, légions et peuples, puis en choses complexes comme le bateau, et arrive enfin à l'homme, qui est l'exemple principal de choses simples. Dans ce dernier exemple, il nous dit, sous forme d'une reductio ad absurdum, si quelqu'un voudrait soutenir qu'il y a une mutation, une perte d'identité des juges, des légions, du peuple, du bateau, exeus ratione, suivant son propre raisonnement, il devrait conclure que l'homme aussi, ou mieux, Alphénus passe ici de manière presque émouvante au nous, pour mieux faire ressentir au lecteur qu'il aurait été lui-même frappé par cette absurdité, nous aussi, nous ne sommes plus les mêmes que nous étions un an auparavant, car les particules qui nous composent sont continuellement substituées par d'autres particules qui proviennent de l'extérieur. Le texte d'Alphénus a bien sûr attiré l'attention, car selon sa propre admission, ici un juriste se confronte avec les philosophes. Dans un premier temps, naturellement, ce développement lui coûta la condamnation des interpolationnistes, c'est-à-dire cette secte, cette vague critique qui, dans la première moitié du XXe siècle, a cru que la plupart des textes, surtout les plus intéressants, transmis par les digestes, avaient été profondément modifiés par Justinien, ou même auparavant par les écoles d'Orient. Fritz Schulz retenait l'entière exposé fruit d'anglossateur. D'autres ont, au contraire, cherché de comprendre quel courant philosophique Alphénus suivait. C'est, on peut dire, l'attitude contraire, non pas de condamner le texte en tant que tel, mais de chercher de rapprocher le juriste à une certaine courante philosophique. Pour certains, il était un adepte des doctrines atomistes de Démocrite, peut-être grâce à l'influence de son contemporain Lucrèce. Au contraire, certains pensent qu'Alphénus suit les courants aristotéliques et stoïciens. Surtout, presque tous les romanistes soulignent qu'il est surprenant qu'un juriste décide sur la base des considérations philosophiques. Je voudrais montrer que les choses sont plus complexes et dans le même temps plus simples. Naturellement, depuis Alciate, au XVIe siècle, le cas du bateau était connu comme un problème philosophique, exemplifié par le cas du bateau de Thésée, l'embarcation à 30 rames avec laquelle l'héros accomplit la traversée et ramène sans et sauf à Athènes les jeunes destinés au Minotaure. Mais oubliant de hisser la voile noire, qui était le signal qui l'amenait à bien la mission, il provoqua le suicide de son père Égée. Jusqu'à l'époque de Démétrius de Phalère, à la fin du IVe siècle, le bateau fut conservé par les Athéniens comme un monument et venait continuellement restauré. Ils annotaient les vieilles pièces à mesure qu'elles se gâtaient et les remplaçaient par des nouvelles qu'ils joignaient solidement aux anciennes. Aussi, les philosophes, et c'est encore plus tard que nous l'ai dit dans la vie de Thésée, les philosophes citent ce vaisseau comme un exemple de doute et soutiennent les uns que c'était toujours le même, les autres que c'était un vaisseau différent. Donc Alciate avait bien vu que le texte d'Alphénus avait derrière soi le problème du navire de Thésée. Mais il faut aller plus loin et comprendre que ce problème n'était que la manifestation d'une autre diatribe bien plus vaste qui avait à son milieu la question de l'identité de l'homme apaisée du passage du temps. Tous les raisonnements par absurde d'Alphénus, selon lesquels nous ne serons pas les mêmes qu'il y a un an, à cause de l'incessante mutation de notre structure atomique, était en effet la conclusion d'un fameux argument appelé « o peri auxesios logos », l'argument de la croissance qu'on appelait aussi « auxomenos » parce qu'il devient toujours plus complexe. Selon Plutarque, l'argument de la croissance avait été posé la première fois par Épicarme et il avait été le premier aussi à l'appliquer à l'homme. Épicarme est une figure digne d'intérêt. Aristote lui attribuait le mérite d'être le fondateur de la comédie comme genre artistique. Issu de Mégaryblé en Sicile ou de Syracuse, l'activité d'Épicarme se situe durant la première moitié du 5e siècle. Son œuvre est fragmentaire, on connaît 35 titres de drame et action. En plus d'être un auteur de comédie, l'Antiquité lui attribuait le rôle de philosophe avec une propension au pythagorisme. En réalité, le rapport entre l'activité d'un auteur de comédie comme Épicarme et son œuvre philosophique est une question philologiquement très complexe et encore ouverte. Il est possible qu'effectivement Épicarme ait écrit en plus des comédies des œuvres philosophiques. Ou alors, et je cite la conclusion de l'étude plus récente, celui de Rainer Kerkhoff, il est possible qu'il existait dès le 5e siècle un petit poème apocryphe attribué à Picarme dans lequel étaient réunies les doctrines remontant à Pythagore ou à Empédocle, et que de telles doctrines furent mises en rapport comme une sorte d'illustration réciproque avec les passages de comédie d'Épicarme. Quoi qu'il en soit, Diogène Laërce nous a laissé quelques doctrines attribuées à Épicarme dont Platon lui-même se serait inspiré, une en particulier qui est précisément celle de l'argument de croissance. Ah. Bien, le français s'est sauvé en tout cas. Presque. Alors, le texte dit « Si à un numéro impair, ou si tu préfères un numéro pair, quelqu'un voulait ajouter un grain ou en prendre un de ceux qu'il y a, te semble-t-il peut-être qu'il reste le même ?» Donc, si tu prends un grain ou tu ajoutes un grain d'une série, est-ce que le nombre reste le même? Pour moi, c'est non, répond le deuxième participant au dialogue. Non, vraiment, réplique le premier. Et pourtant, si à la mesure d'un coudé, une personne veut ajouter de la longueur ou en couper, est-ce encore la même longueur? Répond le deuxième. Non, bien sûr. Le premier. Maintenant, regarde de cette manière les hommes. Une personne grandit, l'autre est en déclin, et ils sont tous deux en continuelle mutation dans le temps. Celui qui alors, par nature, change et jamais ne reste sur le même point, serait-il différent désormais de celui qui a subi tout de suite le changement? Toi et moi, des autres hier et des autres aujourd'hui, nous revenons à être, et puis des autres encore, et puis jamais les mêmes selon ton raisonnement. Alors donc, c'est difficile, je pense, de résister à la logique impitoyable de Picarme. C'est pourquoi cette question eut un grand succès auprès des philosophes qui essayaient en vain de s'en tirer. Et il y a une page de Plutarque, extrait du traité contre les stoïciens, qui sont accusés de négliger les idées communes, qui fait un petit résumé de l'opposition entre les académiciens et les stoïciens à ces propos. Il commence en disant « La dispute sur la croissance est très ancienne. Chrysippe dit qu'elle a été mise en question par Épicarme. Nous voyons encore une fois la confirmation de la part de Chrysippe que c'était une question qui avait été mise en route par Épicarme. Les académiciens regardent cette question comme embarrassante. Donc la logique d'Épicarme n'était pas facile à être surmontée. Sur cela, les stoïciens crient contre eux avec emportement et accusent les académiciens de renverser les idées communes, tandis qu'eux-mêmes, bien loin de les respecter, détruisent même le bon sens. Car c'est une chose toute simple, c'est le point de départ, et dont les stoïciens eux-mêmes admettent le principe, c'est-à-dire que les substances particulières ont toutes des émanations qu'elles répandent et reçoivent mutuellement. Celles qui les reçoivent en grand nombre ne restent pas les mêmes, et cette accession d'émanations étrangères change et accroît leur substance. C'est contre la vérité, disent encore les stoïciens, et par l'empire seul de l'habitude, qu'on appelle ces changements croissance et diminution. Il était plus naturel de les nommer génération et corruption, parce qu'elles forcent les substances de passer d'un état à l'autre. C'est tout à fait la même chose qu'avec les grains qu'on ajoute ou en tire dans le nombre. Après avoir établi de pareils principes, que veulent encore les stoïciens, ces défenseurs de l'évidence, ces règles vivantes de notions communes? Ils disent que chacun de nous est jumelle et a deux natures. Chacun de nous est un double sujet dont l'un est substance et l'autre la qualité. L'un est dans une émanation, est un mouvement continuel et ne reste jamais entièrement semblable à lui-même. L'autre est toujours le même, sans croître ni diminuer. Il a des affections tout contraires à celles du premier, quoiqu'il soit incorporé, uni et presque confondu avec lui. Alors, c'est comme vous voyez, le texte de Plutarque commence en posant le principe. Les principes sont deux, un principe physique, le principe de changement continuel des corps, le principe logique de Épicarme. Après vient la conclusion, l'effort des stoïciens de surmonter la difficulté en disant que nous sommes tous des jumeaux, avec une partie qui est, je dirais, durable et une partie en continuel changement. À ce moment-là, Plutarque réplique, on rapporte que l'INSEE avait la vue supersonique qu'il voyait à travers les pierres et les arbres et qu'un homme placé en Sicile sur une hauteur distinguait une journée et une nuit de navigation les vaisseaux qui sortaient du port de Carthage, mais personne n'a vu en nous cette diversité des substances et nous-mêmes, nous n'avons pas de conscience d'être doubles. Alors donc, il répond aux stoïciens que leur effort n'est pas seulement contre, je dirais, les principes philosophiques, mais va contre même le bon sens. Alors, le récit de Plutarque a plusieurs points de contact avec le texte d'Alphénus et nous fournit l'arrière-plan de son raisonnement. Nous pouvons maintenant confirmer que le rappel d'Alphénus au continuel renouvellement atomique n'est pas propre seulement à Démocrite et à Épicure. Le récit de Plutarque nous montre que même pour un platonicien, comme ce fut l'écrivain de Chéronée, et pour les stoïciens, le flux de la matière était un principe physique communément accepté, qui trouve son expression dans les classiques Pantarei d'Héraclite. À juste titre, par conséquent, Alphénus lui-même, mentionnant le point de vue selon lequel les particules se détachent du corps et d'autres y sont ajoutées de l'extérieur, l'attribue génériquement au philosophe. C'était une vision commune. Le vrai problème ouvert était de décider si, étant donné ces changements, les hommes gardent leur identité. Nous avons vu qu'il y avait des réponses différentes. Et ce qui nous touche, nous frappe, c'est qu'Alphénus partage la conclusion en faveur du maintien de l'identité, mais exprimée d'une manière expéditive. Il ne donne pas une motivation. Alors donc, avant de conclure notre lecture, nous allons la conclure dans très bref, on devrait donc se demander quelle est la raison profonde qui a mené Alphénus à conclure que l'homme ne perd pas son identité en raison de la fluidité de son corps. Parce que je dirais qu'à ce moment-là, nous avons l'impression que vraiment Alphénus a choisi une doctrine philosophique, on dirait. Il y a un partage d'opinions entre les philosophes, mais il emploie la réponse, par exemple, celle qui était donnée par les stoïciens, c'est-à-dire du maintien de l'identité de l'homme. Alors, on a vraiment l'impression que le juriste, ici, s'appuie sur une motivation philosophique. Et c'est quelque chose qui, dans un certain sens, met en doute le statut de la jurisprudence, parce que la jurisprudence, ici, s'appuie sur une doctrine philosophique, ce n'est pas la sienne, et surtout, elle s'appuie sur une doctrine philosophique qui était discutée. Donc, on peut s'imaginer une dispute devant un juge, qui aurait pu vraiment soutenir l'opinion opposée en disant « Moi, je trouve que l'opinion des stoïciens à propos du maintien de l'identité est absurde, tout comme le disait Plutarque. » Alors donc, il y a quelque chose qui est un peu navrant ici parce qu'on ne voit pas bien où le juriste veut appuyer son opinion. Mais pour comprendre le rôle que le juriste a confié à la question de l'identité de l'homme en dépit de la fluidité de la matière, il faut considérer le placement de l'argument dans les textes. C'est, comme je venais de le dire, un argument par l'absurde que Alphénus oppose à son adversaire hypothétique. Il dit « c'est absurde parce que, tu te rends compte, ça veut dire que même moi, toi, nous ne sommes pas les mêmes que nous étions il y a un an. » Oui, Alphénus a certainement basé sur le bon sens l'absurdité de la conclusion, ce qui explique l'accent qu'il met sur la première personne plurielle « nous ». C'est une stratégie communicative. Mais cependant, il y avait une raison sous-jacente, peut-être plus élégante et nécessaire, qu'une fois de plus est suggérée par l'argument de la croissance. C'est l'usage comique, et je crains que ça, c'est vraiment comique. Alors, je pense que ça peut l'éliminer. C'est l'usage comique, semble-t-il, que Picarne faisait de cet argument qui nous aide à entendre le texte d'Alphénus, d'entendre le texte d'Alphénus. Et Picarne disait... Selon un commentaire anonyme sur les Théétètes de Platon conservé dans un papyrus de Berlin édité par Diels et Schubert en 1905 et qui a été réédité maintenant dans le recueil de Bastianini et Zedley, et qui a été très bien reconstitué par un travail très récent de Luigi Battezzato. Alors, le texte dit les substances deviennent insensément autres par les continuels écoulements. C'est ce que nous avons bien appris cet après-midi. Et Épicarme l'a mise en scène à propos de quelqu'un à qui on venait demander la restitution d'une dette et qui niait d'être le même à cause des éléments qui s'ajoutent et de ceux qu'on perd. Quand le créditeur le poursuivit et fut appelé au tribunal, il affirma à son tour que celui qui l'avait poursuivi était un autre et celui qui était appelé au jugement était un autre. Alors donc, la scène comique profite d'un rapport juridique. Le texte est révélateur, il explique pourquoi les juristes ne pouvaient que prendre le parti de l'identité. Autrement, ils auraient vu se dissoudre le centre d'imputation des rapports juridiques. Ils auraient vu disparaître tout emprunteur et tout créancier, tout dépositaire et tout déposant, les voleurs, les propriétaires, les malfaiteurs et leurs victimes. Comme on peut le voir, nous sommes en face d'un cas typique où il ne s'agit pas d'une acquisition sèche du terme issu d'un débat philosophique, mais d'un raisonnement juridique qui, à la fin, se base sur une argumentation juridique. En d'autres termes, dans son argumentation, Alphénus se penche dans le domaine de la philosophie seulement lorsqu'il s'agit de notions qui peuvent être généralement acceptées, c'est le cas de la division tripartite stoïcienne de corpora, ou lorsqu'il s'appuie sur la notion péripatéticienne de forme, et quand il accepte l'idée commune de flux de la matière, ce qu'Alphénus ne fait pas, en dépit de ce que pense maintes romaniste, c'est de fonder sa réponse sur une doctrine philosophique particulière, une opération qui rendrait irrécevable sa réponse à ceux qui n'auraient pas adhéré à la même courante. Je dirais qu'il utilise la philosophie seulement comme instrument d'analyse pour réduire le fait à une dimension de pensée qui lui permet de la traiter. Nous pouvons en conclure. Un certain apprentissage philosophique rentrait dans l'éducation commune des jeunes Romains qui l'apprenaient au plus tard au cours de l'enseignement de la rhétorique, donc au dernier stade de la formation de l'adolescent, faisant part des classes dont sortaient les juristes. Les juristes romains ne sont pas philosophes, ni dans leur attitude extérieure, ni dans leur travail intellectuel. Plus précisément, leurs décisions n'étaient pas fondées et ne pouvaient même pas l'être au risque de trahir leur mission. Sur des dogmes philosophiques, l'usage qu'ils faisaient de la philosophie, pour ce qui était plus que suffisant la connaissance qu'ils en avaient, était principalement destiné à transformer les problèmes en conseils, à réduire les problèmes dans une forme telle qu'ils fussent susceptibles d'être traités, tranchés selon les valeurs juridiques. Donc, dans les livres des juristes, nous assistons à une transformation. La jurisprudence, pour organiser la société et les mondes, crée un monde tout à soi. Merci.